France Inter. Midi et demi, 14h, le grand rendez-vous, Yves Decamp.
Et dans le grand rendez-vous, c'est l'heure du virus au carré avec vous, Mathieu Vidard et votre invité. Bonjour. Rebonjour Mathieu.
Oui.
Bien sûr, vos appels et vos questions à tous auditeurs au 01 45 24 7000 pour parler aujourd'hui de nos biais connectifs à l'origine de nos comportements et de nos jugements face à l'épidémie du coronavirus. Plus simplement, quand notre cerveau nous joue des tours, Mathieu.
Oui, biais cognitif. Yves, un sujet passionnant de psychologie sociale et de neurosciences pour comprendre comment notre raisonnement et nos pensées peuvent être erronés en raison de nombreux biais qui nous empêchent donc de juger les événements avec logique et rationalité. Alors, il semble que ces biais de raisonnement aient affecté les comportements des dirigeants comme des citoyens face à de nombreuses situations dont nous allons parler dans un instant avec notre invité. Alors, au début de la crise de Covid-19, notre cerveau nous a par exemple encouragé à négliger les informations inquiétantes qui a donné naissance à une forme d'insouciance collective face à la gravité de la situation. On se souvient évidemment de ces personnes qui, malgré l'injonction à ne pas sortir, ont profité du beau temps pour se rendre en nombre dans les parcs publics. C'est ce décalage, Yves, entre les informations autour de l'épidémie et la manière dont nous percevons les risques associés qui trouvent leur origine dans ces biais cognitifs. Alors, le 24 janvier dernier, les premiers cas de Covid-19 étaient signalés en France. Le 13 mars, l'Europe est devenue, selon l'OMS, le nouveau foyer central de l'épidémie. Pourtant, à la différence de la Corée du Sud ou de certains pays africains comme la Côte d'Ivoire, les dirigeants européens ont tardé à prendre la mesure de la gravité de la situation. Et serait en cause un biais appelé effet d'autruche qui décrit la tendance qu'ont les individus à éviter ou à rejeter les informations perçues comme négatives et à ne pas les inclure dans le processus de décision. Souvenez-vous, le 7 mars dernier, Emmanuel Macron se rendant au théâtre avec son épouse pour inciter les Français à ne pas modifier leurs habitudes de sortie malgré l'épidémie de coronavirus. On peut citer également Donald Trump, serrant des mains en pleine conférence sur le Covid-19, ou Bolsonaro, le président brésilien, se mêlant à la foule en dépit des consignes de distanciation sociale. Tous les dirigeants semblent avoir été atteints par l'effet d'autruche. Un autre biais intéressant s'appelle l'effet de surconfiance, un biais ravageur qui montre que les personnes non qualifiées dans un domaine surestiment en général largement leurs compétences. Cet effet est parfaitement traduit dans les tontons flingueurs, Yves, avec cette réplique célébrissime, les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ce biais est très présent chez les novices, et en particulier chez les individus incompétents ayant une vision bien trop flatteuse d'eux-mêmes, comme par exemple cet homme à l'origine de la vidéo et cette fake news prétendant que l'Institut Pasteur avait créé le coronavirus dans ses laboratoires. Ces biais sont donc très nombreux, Yves, et je vous propose d'en découvrir quelques-uns sans plus tarder avec notre invité.
Et bravo Mathieu Vidard, citer Michel Audiard dans le virus au carré, c'est très fort. Notre invité, Ève Fabre, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes chercheur en neurosciences sociales, affilié à l'ISAE Supaéro. Dans le contexte de vos recherches, vous vous intéressez à la prise de décision en contexte social. Le 24 mars, vous avez publié sur le site The Conversation un article intitulé « Attention, comment le coronavirus nous a tous biaisés ?» Et vous allez maintenant dialoguer avec les auditeurs qui nous rejoignent bien sûr au 01 45 24 7000. Mathieu, votre première question.
Oui, alors avant de rejoindre les auditeurs qui, je sais, sont nombreux, F. Fabre, est-ce que vous pourriez nous expliquer un tout petit peu plus ce que sont les biais cognitifs et en quoi il est intéressant de s'y pencher dans le cadre de cette crise de Covid-19 là, en ce moment ?
Alors, un biais cognitif, c'est d'abord en fait une distorsion du traitement qu'on va faire d'une information. Ça peut se passer à différents moments de ce traitement, donc ça va être la détection d'une information, la sélection de cette information au milieu d'un grand nombre d'autres informations, comme on peut le voir en ce moment avec le Covid-19, on est submergé d'informations. Le traitement qu'on va faire de cette information aussi, à quel point on va s'y arrêter, prendre du temps pour essayer de comprendre des choses complexes, mais aussi la mise à jour de cette information. Parce que si ça se trouve, cette information est fausse, il va falloir arriver à se rendre compte qu'elle est fausse. Tout ça, ça va être modulé par nos émotions du moment, par nos croyances, par la pression temporelle aussi, parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps à faire ces traitements qui coûteux, et aussi aux capacités cognitives des personnes. Donc ça dépend si on a une bonne mémoire, des capacités calculatoires assez bonnes ou pas. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, vu qu'on est dans une situation où les gens ont peur parce que on est tous ces phénomènes-là en fait vont être exacerbés par l'incertitude de la situation dans laquelle on est maintenant. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à l'impact des biais cognitifs sur notre réaction au Covid-19.
Alors une première question pour vous, Eve Fabre, elle nous vient de Morgane qui nous appelle de Nice. Bonjour Morgane.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Alors, ma question est de savoir si nous ne sommes pas dans un état de sidération, en fait. Et c'est vraiment la question que je me pose.
Alors oui, effectivement, vous avez raison. En fait, on n'a jamais en Occident, en tout cas depuis longtemps, vécu ce genre de situation dans laquelle on se trouve actuellement. Donc on n'était pas préparé à vivre ce genre de choses. Et finalement, on a un système de santé qui normalement marche très bien, très efficient. Et là, finalement, on se retrouve dans une situation qu'on a du mal à gérer. Donc ça génère beaucoup de peur. Et donc ça limite un peu nos capacités à traiter des informations complexes.
Mathieu ?
Donc c'est cette sidération finalement qui crée, vous l'expliquez, une sorte de filtre qui nous empêche de juger les choses de façon rationnelle. Hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Voilà, en tout cas ça empire un peu les choses, on va dire.
Ouais, alors les dirigeants européens ont tardé à prendre les mesures nécessaires face à la gravité de la situation, alors qu'en Asie on avait déjà été touché par le coronavirus. Donc ce qui veut dire, Eve Fabre, qu'on peut être au sommet de l'État, très bien informé, et pourtant ne pas réagir de façon adéquate. Donc le pouvoir a également des effets sur le comportement, on pourrait dire les choses comme ça ?
Oui, alors le pouvoir ça a beaucoup beaucoup d'effets sur le cerveau et sur notre capacité à traiter les informations. En plus de ça, même si on a certaines informations, on a plein de biais, par exemple le biais de faux consensus, donc on va avoir une information, finalement on va pas forcément la prendre comme une information importante, et les gens autour de nous vont un peu avoir peur des répercussions de contredire finalement une personne qui a du pouvoir, et donc cette information va pas forcément être prise en compte comme elle le devrait. Là, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un peu un déni finalement de la gravité de la situation, et vous l'avez dit tout à l'heure, on voit très très fortement chez Trump ou chez Bolsonaro qui a déclaré une phrase proche de « les Brésiliens ne pourront pas attraper le coronavirus parce qu'ils tombent dans les égouts, ils en ressortent et ils ne sont pas malades ». Donc il y a un peu un des effets un peu bizarres qui se passent en ce moment, effectivement, et le pouvoir n'aide pas.
Une autre question au standard de France Inter. Arlette, bonjour à vous Arlette.
Oui, bonjour. Moi, je m'étonne qu'on ne parle jamais de ce qu'a été la pathologie, la pandémie de la tuberculose. Je suis née à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et jusque dans les années 60, la tuberculose, c'était notre terreur. Et il y avait évidemment, maintenant, aujourd'hui, on parle, mais on ne fait rien, parce qu'on ne peut pas isoler les patients qui seraient atteints de coronavirus. Or, nous, lorsqu'on luttait contre la tuberculose, il y avait les grands sanatoriums en Savoie, Haute-Savoie, Isère, et je pense aussi à cet immense lieu, je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, du plateau d'Assy, n'est-ce pas ? Et tous ces lieux accueillaient ces personnes qui étaient souffrantes, souffraient de tuberculose. Et nous, dans le Pas-de-Calais, il y avait l'hôpital maritime de Berck, où il y avait ce qu'on appelait les allongés. D'ailleurs, il y a un roman de Jeanne Galzy qui a été réédité aux éditions Gallimard et qui décrit ces pauvres qui étaient atteints de la tuberculose osseuse. Mais pour moi, j'ai tout ça dans ma mémoire. Ça me saute à la figure. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle jamais. Et la génération de mon père avait 20 ans en 1930, pour lui c'était la syphilis, c'était une terreur. Mais chaque génération a vécu avec cette terreur qu'on porte en nous. Et je m'étonne qu'on fasse comme si ça... Bon, tout ça est tu.
Comme si on ne s'en souvenait pas, Eve Fabre.
Oui, alors effectivement vous avez raison, donc pour les personnes qui ont vécu ce genre de traumatisme, et même typiquement pour les Asiatiques en fait, qui ont déjà été confrontés à ce genre de pandémie plus récemment, ils ont pris très rapidement la mesure de la gravité. On peut expliquer ce retard au démarrage par un effet qui s'appelle l'effet talisman, en fait. qui est en fait une illusion de sécurité. On a des systèmes de santé maintenant qui sont très très efficients, je le disais tout à l'heure, et donc du coup on se sent vraiment protégé. Cet effet Peltman, il a été démontré dans les années 60 en fait, où quand on a obligé les gens qui faisaient des voitures à installer des ceintures de sécurité, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup moins de morts sur les routes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le nombre de morts est resté constant, tout simplement en fait parce que les automobilistes, se sentant protégés par la ceinture de sécurité, se sont mis à rouler plus vite. Et ils se sont mis aussi à rouler plus proche des cyclistes, des piétons. Et donc, ils ont tué beaucoup plus de cyclistes et de piétons qu'avant. Donc ils sont un peu moins morts que d'habitude, mais en tout cas c'est la vitesse qui a continué de tuer les automobilistes. On peut faire une analogie avec ce qui se passe en ce moment. Finalement, on pense qu'on a un système de santé qui nous protège et que finalement on risque rien. Et en plus on n'a pas cette mémoire que vous pouvez avoir de ces événements passés.
Mathieu?
Oui, Fabre, il y a également l'exemple concernant la chloroquine, dont vous parlez d'ailleurs dans votre article, qui est très intéressant avec les débats que suscite ce médicament. Alors, comment est-ce que vous expliquez, vous, les divisions dans la société et dans le milieu scientifique, et puis cette figure du professeur Didier Raoult qui a émergé et qui s'est imposée dans l'espace médiatique? Comment vous expliquez tout ça, vous?
Alors, c'est une question qui est compliquée, donc je vais essayer d'y répondre assez, de manière assez totale. Complexe en tout cas. Je pense que vu les résultats du professeur Raoult étant un peu faibles, il était difficile pour lui peut-être de gagner dans le milieu scientifique, puisqu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont un peu opposés à ces résultats-là. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un peu, au lieu d'avoir une discussion entre scientifiques, ça a été finalement porté à la connaissance des citoyens. Donc il y a beaucoup de citoyens qui sont intéressés, et c'est normal parce qu'on est dans une situation qui est stressante. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que on est dans une situation où il y a un peu une confusion entre la liberté d'expression et la légitimité à parler. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à défendre la chloroquine parce que finalement c'était un peu notre seul espoir de s'en sortir. Le professeur Raoult finalement a été le premier à donner de l'espoir avec la chloroquine. Et donc les gens qui sont très stressés et qui ont peur de mourir, c'est normal, se sont un peu accrochés à cette histoire, cette idée que la chloroquine allait sauver un peu tout le monde. En plus de ça, je pense qu'il y a eu un peu un effet d'amplification de ces phénomènes-là, parce qu'en cas de crise, on a besoin de leaders forts qui nous rassurent en fait. Et du fait de la situation politique de la France, où il y a vraiment beaucoup de problématiques, donc les gilets jaunes, beaucoup de manifestations pour les retraites, dans le milieu hospitalier aussi. Finalement, il y avait déjà une cassure avec le chef de l'État qui devrait être finalement ce leader-là. Le professeur Raoult s'est un peu positionné en tant que anti-système, qui luttait contre une injustice, etc. Et donc finalement, je pense que les gens ont trouvé ce leader qui leur manquait peut-être un peu en Didier Raoult.
Une autre question qui sera probablement la dernière, au standard de France Inter. Chantal qui nous appelle du Périgord, bonjour à vous.
Oui, bonjour, bonjour. Eh bien bonjour. Voilà, des chercheurs à Bordeaux travaillaient sur l'intelligence, sur le rayonnement de l'intelligence. Et alors, ils ont trouvé que l'intelligence pouvait se mesurer à la faculté d'adaptation. Ce qui est en ce moment vraiment très important, la faculté d'adaptation.
Ouais. On est tous très intelligents, Fabre.
Oui, alors, enfin, c'est compliqué de définir exactement ce que c'est l'intelligence. Il y en a divers types. Mais oui, effectivement, la capacité de résilience, surtout dans les situations difficiles qu'on vit actuellement, c'est effectivement une capacité qui est très importante. Et donc, il va falloir en faire preuve de plus en plus, parce qu'avec le changement climatique, on risque d'être confronté à ce genre de problématiques de manière un peu plus fréquente qu'auparavant.
Toute dernière question rapidement, Mathieu.
Oui, pour juste terminer sur le changement climatique, parce que vous dites justement que le coronavirus n'est que la pointe de l'iceberg, hein, et que d'autres biais sont malheureusement à l'œuvre aussi dans la gestion de cette crise encore bien plus grave qu'est celle du changement climatique. Donc ce sont des mécanismes assez similaires qui nous empêchent d'agir efficacement.
Oui, à la différence que finalement le coronavirus, on a eu un peu de mal à ne pas voir les effets que ça avait, parce qu'on a vu des gens malades, on a vu des hôpitaux débordés, on a vu des gens qui mouraient. Le changement climatique, finalement, ça nous semble loin. On n'a pas, en tout cas en France, on voit pas trop les effets que ça a sur nous. Il y a sur d'autres continents, ça se voit beaucoup plus, avec des îles qui sont complètement immergées, des zones qui se désertifient, etc. Nous, finalement, on a un peu du mal à l'imaginer, donc on a tendance à moins prendre en compte les risques qui sont à long terme. Le problème, c'est qu'il faudrait commencer à agir dès maintenant pour limiter un peu la catastrophe.
Merci beaucoup Ève Fabre, chercheur en neurosciences sociales, et merci à vous, bien sûr, Mathieu Vidard, pour ce virus au carré toujours passionnant.